Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous sommes le 10 octobre. Dans notre rubrique rétro, retour sur le 10 octobre 1903. Pour la première fois, l'aspirine était mise en vente, commercialisée en Allemagne par les laboratoires Bayer. Bien, aujourd'hui, l'histoire de l'aspirine, de l'écorce de saule au tube de comprimé, c'est notre rétro du jour avec les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.
La firme allemande Bayer dépose le nom de marque Aspirine. Elle sera leader sur le marché mondial jusqu'à la Première Guerre mondiale, obligée ensuite au titre des dommages de guerre d'abandonner au domaine public le nom qui l'a rendu célèbre. Depuis, des milliards de comprimés ont été fabriqués. En 1994, 11 600 tonnes d'aspirine sont consommées dans le monde, plus de 900 tonnes absorbées rien qu'en France. Mais l'aspirine n'a pas fini de nous étonner.
Il y a une écorce, l'écorce de saule, et plus de 4000 ans d'histoire. Les toutes premières traces de son utilisation viennent d'un papyrus égyptien, puis de la Grèce antique et d'Hippocrate. On la prenait alors en décoction pour lutter contre les douleurs de l'enfantement. Un autre médecin grec, Dioscoride, a décrit ses propres préparations.
Ce Dioscoride utilisait lui aussi l'écorce de saule, mais dans les douleurs auriculaires. Alors pour cela, à l'écorce de saule ou au suc de l'écorce de saule, il doit être mélangé avec de l'écorce de grenade en poudre et le tout est mélangé au sein du miel rosa.
Au Moyen-Âge, l'écorce de saule continuera de traiter douleurs et inflammations. Beaucoup l'utilisent très simplement.
Le saule était très répandu, il y en avait dans les jardins et on raconte que les gens utilisaient en particulier les petits trous qu'il pouvait y avoir dans l'écorce pour mettre leurs doigts et récupérer le suc qu'ils consommaient ensuite.
L'écorce salvatrice retombe dans l'oubli quelques siècles avant de réapparaître pour soigner les fièvres en 1753 grâce à un révérend anglais, Edward Stone.
Il pense que si le saule pousse les pieds dans l'eau, il doit pouvoir servir au traitement des maladies qui sont causées par l'humidité et le froid, et donc les fièvres.
Vient le 19e siècle, le développement de la chimie et des laboratoires. Un Français, Pierre-Joseph Leroux, isole le principe actif, la salicyline. Puis des scientifiques allemands et italiens développent l'acide salicylique, future aspirine. Les méthodes sont complexes et il faut encore trouver un moyen de se passer de l'écorce de saule.
On va mimer ce que fait la nature pour arriver à fabriquer une molécule comparable. Et ça a été l'œuvre de Kolb qui a trouvé une méthode permettant, en faisant réagir le phénol avec le gaz carbonique, d'obtenir de l'acide salicylique.
L'usage de l'acide salicylique se répand sous forme de sel pour traiter fièvre, douleur, rhumatisme. Mais il provoque des brûlures d'estomac. En 1853, un autre Français, Charles-Frédéric Gerhardt, fabrique l'acide acétyl salicylique, moins corrosif. 30 ans plus tard, l'histoire s'accélère. Chez Bayer, un laboratoire allemand, le chimiste Félix Hoffmann reprend ses recherches et dépose un brevet, l'aspirine aînée.
Les laboratoires Bayer vont faire les essais biologiques nécessaires. Et on va assister à la commercialisation d'une poudre, d'abord.
Bayer développe sa production en France, aux États-Unis, et partout les ventes explosent. Au cours du XXe siècle, le précieux médicament entre dans les pharmacies de tous les ménages, et ce, dans le monde entier.
Don't despair, a friend in need shows he is a friend indeed. You won't have to wait in vain.
Aujourd'hui, chaque année, 40 000 tonnes d'aspirine sont produites dans le monde.
Le paracétamol et l'aspirine. Ces antidouleurs sont aujourd'hui pointés du doigt en raison du risque de surdosage. Dans les années 70, ils étaient déjà facilement accessibles en pharmacie et parfois mal utilisés. Un constat qui inquiétait alors certains spécialistes.
L'aspirine est susceptible, si elle n'est pas prescrite dans de bonnes conditions et sous surveillance, de provoquer toute une série de troubles qui vont de l'hémorragie digestive à l'urticaire.
Dans les années 90, la consommation d'aspirine et de paracétamol fait toujours partie des réflexes, avec un risque, celui du surdosage. Ce médecin lançait l'alerte en 1998.
Si vous prenez plus de 3 grammes de paracétamol par jour, c'est votre foie qui peut tomber en panne.
Des mises en garde qui ne suffiront pas à changer les habitudes des Français. L'usage du paracétamol a même augmenté de 53% ces 10 dernières années. Un geste banal pour beaucoup.
Quand j'ai mal, je prends du paracétamol, mais modérément.
Pour moi, c'est pas dangereux d'en prendre.
En 2007, malgré les risques, l'automédication était même encouragée par les pouvoirs publics. Une idée pour réduire le déficit de la sécurité sociale.
Le rapport ministériel encourage ainsi la vente de l'aspirine et du paracétamol en libre-service.
L'initiative était alors dénoncée par certains professionnels de santé. Ce pharmacien alertait encore une fois sur la dangerosité potentielle de ces antidouleurs.
Si aujourd'hui, on doit augmenter la consommation des médicaments et augmenter le nombre de boîtes, on n'aura que des inconvénients de santé publique.
Autre alerte 8 ans plus tard, en 2015. En plus du risque hépatique, une étude britannique révélait d'autres effets indésirables liés à la surconsommation de paracétamol.
Le paracétamol augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale et de troubles gastro-intestinaux comme les ulcères, en plus de son action sur le foie et sur le système hormonal.
En 2018, la mort d'une jeune femme par intoxication au paracétamol relançait le débat. Un an plus tard, l'Agence du médicament dévoilait une campagne de prévention. Aujourd'hui, le paracétamol et l'aspirine font toujours partie des substances actives les plus vendues en France.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.